Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter le magazine culturel qui sera suivi par « Apprendre l'Indonésien ». Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Sauver les forêts et les eaux, le gouvernement doit arrêter la conversion des forêts. La ministre Susi a protesté l'entrée des navires chinois. L'ambassadeur Rizal Sukma a admis que l'industrie créative devenait le moteur de croissance. Le gouvernement indonésien encourage la construction de la nouvelle raffinerie de pétrole à Tanjung Api-Api. Le traité Helsinki va entrer dans le programme d'enseignement. Nusa Tenggara Oriental est destiné à être des centres de culture des Alpes. Charami nous présente maintenant le journal complet. Le directeur du Forum national pour l'environnement ou WALHI Indonesia, Abednego Tarigan, a déclaré que l'état des forêts de l'Indonésie était encore une source de préoccupation. Cela est dû aux pratiques illégales d'exploitation forestière et la conversion des terres forestières à des fins diverses. Le lundi 21 mars 2016, Abednego a déclaré à RRI World Service que chaque année la déforestation atteint 500 jusqu'à 800 hectares par an. Lié à la Journée mondiale des forêts qui a célébré cette année sous le thème « Les forêts et les eaux », Abed a demandé au gouvernement d'arrêter la conversion des forêts. Le gouvernement doit augmenter le contrôle sur les licences existantes. Il y a tellement de licences de gestion forestière accordées par le gouvernement, mais il n'y a aucun autre contrôle qui provoque des pratiques de corruption, comme par exemple la province de Kalimantan Central, à une superficie de 14 millions d'hectares, mais qui a déjà le permis de gestion seulement 12 millions d'hectares et 2 millions d'hectares sans permis. Selon Abednego, l'octroi de licence de gestion forestière doit être à l'attention du gouvernement. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Mme Susi Pujasusi, a protesté à la République populaire de Chine lié à l'entrée du navire de pêche KM Kuaifei 10078 et le navire chinois et le navire de garde côtière chinois dans les eaux de Natuna en Indonésie. La ministre Susi a expliqué aux journalistes à Jakarta dimanche que les actions du navire de garde côtière chinois qui a percuté le KM Kuaifei 10078, un bateau de la pêche illégale en provenance de Chine dans les eaux de Natuna dimanche matin avec des soupçons que ce bateau de pêche en provenance de Chine ne veut pas être remorqué au continent de l'Indonésie. Pourtant, à ce moment, KM Kuaifei 10078 est sous le contrôle. Concernant cet incident, la ministre associée pour Jassouci a déclaré dimanche qu'elle appellera l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Jakarta. Par ailleurs, elle a également coordonné avec le ministre indonésien des Affaires étrangères de sorte que ces problèmes soient résolus diplomatiquement. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume-Uni et à la République d'Irlande, M. Rizal Sukma, a admis que l'économie créative devenait le moteur de croissance en Indonésie. Il a affirmé dimanche à Londres que l'industrie basée sur la créativité et l'innovation du peuple se développerait rapidement. Selon lui, jusqu'à présent, l'économie créative a contribué la devise de 7% du produit intérieur brut total. En 2020, l'économie créative est ciblée à contribuer jusqu'à 130 milliards de dollars américains. Le ministre conseiller des Affaires économiques de l'ambassade d'Indonésie à Londres, Vito Rafael Tahar, a affirmé également l'importance de la croissance économique créative en créant un climat propice et à soutenir les acteurs économiques créatifs dans l'établissement de la coopération internationale, y compris un mémorandum d'entente avec les différents parties aux pays voisins. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La zone économique spéciale de Tanjung Api-Api au sud de Sumatra est projetée comme l'un des lieux de construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole brut en Indonésie. Dans sa visite de travail à Palembang, le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, M. Sudirman Said, a affirmé dimanche que la construction de nouvelles raffineries au sud de Sumatra pourrait soutenir l'existence de la vieille raffinerie de pétrole appartenant de PT Pertamina Plaju. Selon lui, le gouvernement local a garanti la disponibilité de terres pour construire cette raffinerie. Dans la gestion, le gouvernement impliquera les investissements qui peuvent coopérer avec Pertamina. Cependant, le directeur général du pétrole et du gaz du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, I Gusti Nyoman Wiratmaja, a déclaré au cours des 10 prochaines années, l'Indonésie nécessite 4 raffineries d'une capacité de production de 300 000 barils par jour afin de répondre aux besoins de 1,2 million de barils de pétrole brut. Le gouverneur d'Aceh, M. Zaini Abdullah, a déclaré que l'histoire de la paix d'Aceh à partir de l'accord Helsinki jusqu'à la promulgation de la loi numéro 11 l'année 2006 liée au gouvernement d'Aceh entrera dans le programme d'enseignement dans cette province. Zaini Abdullah a déclaré à Bukit Tengah Pidijaya dimanche que les enfants et les petits-enfants doivent être conscients que le processus de paix à Aceh est l'événement important qui ont été reconnus par la communauté internationale. L'histoire du conflit qui a frappé Aceh et a finalement terminé avec l'esprit de la loi doit être racontée aux générations futures afin de sensibiliser sur l'importance de maintien de la paix pour la durabilité du développement à Aceh. Selon Zaini Abdullah, le matériel qui sera inclus dans le programme d'enseignement est non seulement lié au conflit et à la paix, mais aussi le rôle d'Aceh dans le maintien de l'indépendance au début de la fondation de la République d'Indonésie. Le directeur général de l'aquaculture du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Slamet Subiakto, à Jakarta, a déclaré dimanche que la condition naturelle dans la région de Nusa Tenggara Oriental était très appropriée pour le développement de l'agriculture. Le potentiel naturel de Nusa Tenggara Oriental peut soutenir la culture des algues qui peut améliorer le bien-être des communautés côtières. Cette province, surtout à Belu, développe aussi l'aquaculture de poissons-lait ou chanots. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le temps de chargement et déchargement au port de Tanjung Priok, Jakarta détermine la compétitivité des produits indonésiens ». Le ministère de coordination des affaires maritimes a réussi à réduire la durée de séjour de chargement et déchargement au port de Tanjung Priok, Jakarta. L'adjoint de ressources naturelles et de services du ministère de coordination maritime, M. Agung Kuswandono, a déclaré que la durée de séjour dans le port de Tanjung Priok par 14 mars 2016 a atteint 3,64 par rapport auparavant environ de 7 jusqu'à 8 jours. Mais le président Joko Widodo a affirmé qu'il n'était pas encore satisfait de cette réalisation. Il a une nouvelle cible, à savoir l'heure de chargement et de déchargement des marchandises dans le port de Tanjung Priok, raccourci à 2 jusqu'à 3 jours en avril. Si la cible n'est pas atteinte, le président a menacé de retirer les responsables du problème. Avec l'objectif, le ministre de coordination, M. Rizal Ramli, doit réduire le temps de chargement et de déchargement des marchandises dans le port de Tanjung Priok, Jakarta. Cet objectif était également très difficile à réaliser. Selon l'agent de ressources et de services du ministère de coordination des affaires maritimes, M. Agung Kuswandono, il est difficile pour l'Indonésie d'atteindre l'objectif de 2 jours, comme dans le port de Singapour. Singapour est le port de transit des containers, tandis que le port de Tanjung Priok, Jakarta, est le dernier arrêt des containers. Bien qu'il soit difficile, Joko Widodo a encore exhorté les parties concernées à travailler dur pour atteindre ces objectifs. L'objectif du président concernant le temps de séjour à Tanjung Priok est très raisonnable. Cette question est très importante à résoudre, parce que sinon il y aura un impact sur le coût élevé de la logistique qui peut affaiblir la compétitivité des produits locaux avec ceux d'autres pays à l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. Le coût national de la logistique est encore élevé, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'augmenter la compétitivité des produits indonésiens à l'ère du libre-échange de la communauté économique de l'ASEAN. Au cours des dernières années, les pays voisins d'Asie du Sud-Est ont été en mesure de mettre en œuvre l'efficacité de sorte que le coût de la logistique a diminué progressivement. Les coûts de logistique en Indonésie au cours des 3 dernières années restent 24% du produit intérieur brut. Le coût de la logistique des pays voisins d'Asie du Sud-Est seulement une moyenne de 16 jusqu'à 17%. Le temps de chargement et de déchargement pour le temps est très important, donc on espère que toutes les parties doivent travailler dur et travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 21 mars 1923, la mort de Nurtanio Pringgo Adisuryo, le pionnier de l'industrie de l'aviation en Indonésie. Il est le pionnier de l'industrie de l'aviation en Indonésie. Avec Viveco Supono, il fait le planeur Zoglik NWG au Nurtanio Viveco Planeur en 1947. Il a fait le premier avion tous les métals et combattants nommé Sikumbang, suivi par Kunang-Kunang, Belalang et Galatik, et aussi la préparation de la production du F-27. Nurtanio est mort dans un accident d'avion le 21 mars 1966 quand il pilotait un avion Aero 45 ou AREF qui était modifié en donnant des recevoirs de carburant supplémentaire. en raison du haut dévouement après Nathaniel est mort dans des vols de ses RF, le nom est immortalisé dans l'industrie aéronautique Nathaniel, maintenant PT Dirgantara Indonesia. Le 21 mars 2003, la mort de Wirahadi Kusuma, le quatrième vice-président de la République d'Indonésie. Le général retraité Umar Wirahadi Kusuma est le quatrième vice-président d'Indonésie qui a servi de 1983 jusqu'à 1988. Il a rejoint l'armée de sécurité populaire. Après la révolution nationale indonésienne, Umar a servi dans l'armée de terre. En mars 1983, il a atteint le sommet de sa carrière. Suharto, qui a été élu président, a choisi Umar comme son vice-président. La carrière comme vice-président a pris fin en mars 1988, quand il a été remplacé Sudarmono. Umar Wirahadi Kusuma est décédé le 21 mars 2003 à l'hôpital central de l'armée indonésienne Gatot Subroto, en raison de problèmes cardiaques et pulmonaires. Le 21 mars 2013, la Journée mondiale des forêts est célébrée pour la première fois. La Journée mondiale des forêts a été célébrée le 21 mars 2013 après la résolution des Nations Unies le 28 novembre 2012. Elle est célébrée chaque année pour partager la vision et la mission de la forêt et de sa relation au changement climatique dans le monde entier, ainsi que les stratégies qui doivent être faites. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis de l'antenne, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre l'Indonésie, l'hôte du processus de Bali 2016. L'Indonésie sera l'hôte du processus de Bali qui se déroulera les 22 et 23 mars 2016 à Nusa Dua, Bali. Un total de 44 des 47 pays invités sont prêts à participer au processus de Bali cette année. En outre, il y a 13 ministres, 8 vice-ministres et 6 organisations internationales qui ont confirmé leur présence au gouvernement de l'Indonésie. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Kristiawan Nasir, à Jakarta récemment. Selon lui, en marge du processus de Bali, le ministre des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi, effectuera un certain nombre de réunions bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères des pays amis et aussi un certain nombre d'organisations internationales telles que les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Fidji, le Japon, l'Afghanistan, UNHCR et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Avant la réunion du processus de Bali, le ministre Retno LP Marsudi va mener une réunion bilatérale avec son homologue australien Julie Bishop ce jour 21 mars au ministère indonésien des Affaires étrangères. Cette réunion vise à faire la préparation finale de la mise en œuvre du processus de Bali parce que les deux ministres sont coprésidents du processus de Bali 2016. Elles discuteront diverses questions bilatérales, entre autres le renforcement des investissements, l'essence des étudiants, la lutte contre le terrorisme et les questions marines. Auparavant, dans l'occasion différente, le directeur de la sécurité internationale et des armements du ministère indonésien des Affaires étrangères, Andi Rahmianto, a affirmé que la réunion du processus de Bali actuel sera différente qu'auparavant. Elle expliquait, jusqu'à présent, le résultat final qui était résulté par le processus de Bali était sous la forme de la déclaration de coprésidente ministérielle. La réunion du processus de Bali à cette année publiera la déclaration ministérielle. Selon Andy, cette différence a été tirée par les incidents qui ont eu lieu en mai et juin l'année dernière, lorsque l'Indonésie a été visitée soudainement de plus de 1800 réfugiés du Myanmar et du Bangladesh qui entrent par l'intermédiaire de la région d'Aceh du Nord. Cette situation a provoqué une crise humanitaire, en particulier dans certains pays d'Asie du Sud-Est comme l'Indonésie et la Malaisie. Le processus de Bali pour la première fois tenu en février 2002. Initialement, l'ordre du jour du processus de Bali est très concentré sur les aspects techniques dans la gestion des frontières dans les pays membres, ainsi que la capacité de contrôle de l'État, y compris le renforcement de l'application de la loi en cas de falsification de documents, la réalisation des systèmes de la législation et des systèmes de visa et le partage des connaissances. En 2007, les pays membres du processus de Bali fournissent le soutien plein pour l'adhésion de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, dans le processus de Bali, de sorte qu'à ce moment, UNHCR est devenue la participante permanente et l'un des membres du groupe de processus de pilotage de Bali avec l'Australie, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande et l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Actuellement, le processus de Bali a plus de 50 pays membres et la plus grande partie d'organisations internationales sont devenues participants. Chers amis, c'était la mise au point pour ce soir.
Le directeur du Forum national pour l'environnement ou WALHI Indonesia, Abednego Tarigan, a déclaré que l'état des forêts de l'Indonésie était encore une source de préoccupation. Cela est dû aux pratiques illégales d'exploitation forestière et la conversion des terres forestières à des fins diverses. Le lundi 21 mars 2016, Abednego a déclaré à RRI World Service que chaque année la déforestation atteint 500 jusqu'à 800 hectares par an. Lié à la Journée mondiale des forêts qui a célébré cette année sous le thème « Les forêts et les eaux », Abed a demandé au gouvernement d'arrêter la conversion des forêts. Le gouvernement doit augmenter le contrôle sur les licences existantes. Il y a tellement de licences de gestion forestière accordées par le gouvernement, mais il n'y a aucun autre contrôle qui provoque des pratiques de corruption, comme par exemple la province de Kalimantan Central a une superficie de 14 millions d'hectares, mais qui a déjà le permis de gestion seulement 12 millions d'hectares et 2 millions d'hectares sans permis. Selon Abednego, l'octroi de licences de gestion forestière doit être l'attention du gouvernement. La ministre des Affaires maritimes et de la Pêche, Madame Susi Pujasusi, a protesté à la République populaire de Chine liée à l'entrée du navire de pêche KM Kuaifei 10078 et le navire chinois et le navire de garde côtière chinois dans les eaux de Natuna, en Indonésie. La ministre Susi a expliqué aux journalistes à Jakarta dimanche que les actions du navire de garde côtière chinois qui a percuté le KM Kuaifei 10078, un bateau de la pêche illégale en provenance de Chine, dans les eaux de Natuna dimanche matin, avec des soupçons que ce bateau de pêche en provenance de Chine ne veut pas être remorqué au continent de l'Indonésie. Pourtant, à ce moment, KM Kuaifei 10078 est sous le contrôle. Concernant cet incident, la ministre Susi Pujasusi a déclaré dimanche qu'elle appellera l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Jakarta. Par ailleurs, elle a également coordonné avec le ministre indonésien des Affaires étrangères de sorte que ces problèmes soient résolus diplomatiquement. L'ambassadeur de la République d'Indonésie au Royaume-Uni et à la République d'Irlande, M. Rizal Sukma, a admis que l'économie créative devenait le moteur de croissance en Indonésie. Il a affirmé dimanche à Londres que l'industrie basée sur la créativité et l'innovation du peuple se développerait rapidement. Selon lui, jusqu'à présent, l'économie créative a contribué la devise de 7% du produit intérieur brut total. En 2020, l'économie créative est ciblée à contribuer jusqu'à 130 milliards de dollars américains. Le ministre conseiller des affaires économiques de l'ambassade d'Indonésie à Londres, Fito Rafael Tahar, a affirmé également l'importance de la croissance économique créative en créant un climat propice et à soutenir les acteurs économiques créatifs dans l'établissement de la coopération internationale, y compris un mémorandum d'entente avec les différents partis aux pays voisins. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La zone économique spéciale de Tanjung Api-Api au sud de Sumatra est projetée comme l'un des lieux de construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole brut en Indonésie. Dans sa visite de travail à Palembang, le ministre indonésien de l'Énergie et des Ressources minérales, M. Sudirman Said, a affirmé dimanche que la construction de nouvelles raffineries au sud de Sumatra pourrait soutenir l'existence de la vieille raffinerie de pétrole appartenant de PT Pertamina Plaju. Selon lui, le gouvernement local a garanti la disponibilité de terres pour construire cette raffinerie. Dans la gestion, le gouvernement impliquera les investissements qui peuvent coopérer avec Pertamina. Cependant, le directeur général du pétrole et du gaz du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales, I Gusti Nyoman Wiratmaja, a déclaré au cours des 10 prochaines années, l'Indonésie nécessite 4 raffineries d'une capacité de production de 300 000 barils par jour afin de répondre aux besoins de 1,2 million de barils de pétrole brut. Le gouverneur d'Aceh, M. Zaini Abdullah, a déclaré que l'histoire de la paix d'Aceh à partir de l'accord Helsinki jusqu'à la promulgation de la loi numéro 11 de l'année 2006 liée au gouvernement d'Aceh entrera dans le programme d'enseignement dans cette province. Zaini Abdullah a déclaré à Bukit Tengah Pidijaya dimanche que les enfants et les petits-enfants doivent être conscients que le processus de paix à Aceh est l'événement important qui ont été reconnus par la communauté internationale. L'histoire du conflit qui a frappé Aceh et a finalement terminé avec l'esprit de la loi doit être racontée aux générations futures afin de sensibiliser sur l'importance de maintien de la paix pour la durabilité du développement à Aceh. Selon Zaini Abdullah, le matériel qui sera inclus dans le programme d'enseignement est non seulement lié au conflit et à la paix, mais aussi le rôle d'Aceh dans le maintien de l'indépendance au début de la fondation de la République d'Indonésie. Le directeur général de l'aquaculture du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Slamet Subiakto, à Jakarta, a déclaré dimanche que la condition naturelle dans la région de Nusa Tenggara Oriental était très appropriée pour le développement de l'agriculture. Le potentiel naturel de Nusa Tenggara Oriental peut soutenir la culture des algues qui peut améliorer le bien-être des communautés côtières. Cette province, surtout à Belu, développe aussi l'aquaculture de poissons-lait ou chanots. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver à nouveau dans le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la forêt de pins de Mangunan à Yogyakarta. Alors, soyez toujours avec nous. La Voix de l'Indonésie, le service mondial de RRI. Soit sur écoute, soit vous pouvez nous écouter sur www.voi.co.id. Sagittaire, chaque année, le 21 mars est célébré comme Journée mondiale des forêts. Cette commémoration vise à accroître la sensibilisation de la gestion durable des forêts, la conservation et le développement durable de tous les types de forêts pour l'intérêt des générations actuelles et futures. Les forêts ont leur importance pour la vie sur Terre. Les forêts ont la fonction comme une source d'eau, la production d'oxygène, l'endroit de la vie de millions de flores et de faune, l'équilibre environnemental et prévenir le réchauffement climatique. En outre, actuellement, les forêts sont fonctionnées aussi comme une attraction touristique, bien sûr, tout en gardant la durabilité des forêts. Dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des forêts, nous vous invitons à visiter l'une des forêts dans la province de Yogyakarta, qui est maintenant populaire et très fréquentée par les touristes. Son nom est la forêt de Pang de Mangunan, située dans le village de Dlingo, Mangunan, la résidence de Bantul. La distance est d'environ 25 km du centre-ville de Yogyakarta. Pour y arriver, vous pouvez utiliser le transport terrestre. Pour ceux d'entre vous qui aiment les défis, vous pouvez être pédalé à la forêt de Pang de Mangunan. Vous passerez la route assez difficile, sinueuse et en montée. En arrivant au site touristique, c'est gratuit d'entrer dedans. Vous payez seulement les frais de stationnement de 3000 roupias pour la moto et 10000 roupias pour la voiture. Sérieusement, la forêt de Pang de Mangunan fait partie de la zone de la gestion forestière de Mangunan qui est plantée par les Pang de Merkusi. En outre, d'autres espèces d'arbres comme l'acajou, l'acacia, Aleurites molucana et les eucalyptus sont plantés également sur le terrain d'environ 500 hectares. Maintenant, la zone de Mangunan ne sert pas seulement comme forêt protégée, mais aussi comme une destination touristique. L'odeur typique de Pang sera sentie immédiatement une fois que vous entrez dans le territoire de la forêt de Pang de Mangunan. Des rangées de Pang de tenir fermement est le charme de cette forêt. Pas étonnant si la forêt de Pang de Mangunan devient l'un des endroits favoris recherchés pour prendre la photo. Non seulement les touristes qui veulent capturer la beauté de cette forêt, les couples qui veulent se marier vont sur lieu réglage des photos de leur pré-mariage. Serviteur, après être satisfait de prendre des photos la forêt de Pang de Mangunan, ne pas oublier de visiter également la source d'eau qui est confiée par la communauté locale comme l'empassement de l'ermitage de Sultan Agung Hanyakrakusuma, roi de Mataram. La source d'eau qui est visitée par tant de pèlerins a été construite par le gouvernement néerlandais de 1925 à 1930. Pour se rendre à la source d'eau Bengkuang, vous pouvez faire le trekking à partir de stationnement et ensuite pénétrer la forêt suivant le chemin d'Otbon de Watu ou la route circulaire qui est plus loin mais peut être atteinte en vélo ou en moto. Si vous voyagez dans la forêt de Pang de Mangunan, vous devez toujours maintenir la propriété et la préservation de cette forêt. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La forêt de Pang de Mangunan à Yogyakarta ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, retrouvons-nous une fois de plus dans votre émission Apprendre l'indonésien, un programme qui vous aide à découvrir des mots et des expressions indonésiens et vous présente un dialogue permettant de les utiliser. Notre sujet aujourd'hui est cursus menjahit ou en français, cours de couture. Alors suivez-moi. Comme d'habitude, je vais tout d'abord introduire le vocabulaire et les expressions liées au thème d'aujourd'hui. Je dirai chacun deux fois et vous devrez les répéter après moi. Cursus, cursus, en français, cours. Menjahit, menjahit, en français, coudre. Mencari, mencari, en français, chercher. Iklan. Iklan, en français, publicité. Banyak, banyak, en français, beaucoup. Waktu luang, en français, temps libre. Spray, spray, en français, drap de lit. Taplak meja, en français, nappe. Membuat. Membuat, en français, faire. Kerajinan tangan, en français, artisanat. Baju, baju, en français, vêtement. Sendiri, sendiri, en français, propre. Mahir, mahir, en français, habile. Mempunyai, mempunyai, en français, avoir. Usaha, usaha, en français, affaire. Idée, idée, en français, idée. Bagus, bagus, en français, bon ou bonne. Besok, besok, en français, demain. Antar, antar, en français, accompagner. Bien, maintenant, le vocabulaire et les expressions vont vous être donnés sous la forme d'une conversation entre Nita A et Dewi B. Je dirai chaque phrase deux fois lentement. Vous pouvez suivre après moi. A. Kamu sedang mencari iklan apa? Kamu sedang mencari iklan apa? En français, vous cherchez quelle publicité? B. Saya sedang mencari iklan kursus menjahit. Saya sedang mencari iklan kursus menjahit. En français, je cherche une publicité de cours de couture. B. Saya mempunyai banyak waktu luang. Saya mempunyai banyak waktu luang. En français, j'ai beaucoup de temps libre. B. Saya ingin kursus menjahit. Saya ingin kursus menjahit. En français, je veux un cours de couture. A. Untuk apa? Untuk apa? En français, pourquoi faire? B. Saya ingin menjahit spray, taplak meja, membuat kerajinan tangan, dan bahkan menjahit baju saya sendiri. B. Saya ingin menjahit spray, taplak meja, membuat kerajinan tangan, dan bahkan menjahit baju saya sendiri. En français, je veux coudre les draps de lit, les nappes, faire de l'artisanat et même coudre mes propres vêtements. B. Setelah mahir, saya ingin mempunyai usaha sendiri. Setelah mahir, saya ingin mempunyai usaha sendiri. En français, si je suis déjà habile, je veux me mêler de mes propres affaires. A. Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. En français, C'est une bonne idée. A. Besok saya antar kamu ke kursus menjahit yang bagus. Besok saya antar kamu ke kursus menjahit yang bagus. En français, demain, je vais vous accompagner à un bon cours de couture. B. Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Ainsi se termine votre programme Parlons Indonésien. Nous espérons qu'il pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous vous retrouverons demain avec un sujet différent. Merci pour votre attention. Au revoir.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs auditrices de la Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique, édition du lundi. Et dans cette occasion, on vous introduit la musique de Kroncong en présentant la chanteuse Hetikus Endang. Eh bien, les auditeurs, pour animer notre rencontre cette soirée, nous allons entendre la chanson de Kroncong Hetikus Endang intitulée Kroncong Mahameru.
Thank you.
Chers auditeurs, Mahameru est la propre destination de très hautes montagnes ou Smeru. Cette chanson a été écrite avec les paroles sont très poétiques. Elle raconte la beauté au sommet du mont dans le ciel bleu, les nuages blancs piétonnent. Vous savez, la haute montagne est souvent un symbole de force parfaite dans l'univers. Chers auditeurs, cette chanson est chantée très bien par Hetikus Endang. Avec la bonne capacité de voix et incontestable, Hetikus Endang est connu pour faire chanter des différents types de genres de musique très bien. Mais après, elle a décidé de se concentrer de chanter le rythme de Kroncong. Sa raison de choisir le rythme Kroncong est conserver et protéger ce rythme. Plus tard, elle prend de chanter le genre de pop devenu le rythme de Kroncong. Même la chanson intitulée Kasih, qui est rythmique bossa nova, a été chantée par Hetikus Endang avec celui de Kroncong. De plus, genre et cette chanson est célèbre en Malaisie, Brunei Darussalam et Singapour. Eh bien, chers auditeurs, allez, nous écoutons la chanson ci-dessus intitulée Kaula Segalanya.
Thank you.
Sergeant Auditor, kalau segalanya, vous avez, c'est chanson, et l'origine, c'est celle de pop, qui est célèbre avec Ruth Sahanaya. Mais, à côté de Hetigus Endang, elle rechante un genre de cronchon. Cette chanson a été écrite par Tito Sumarsono et popularisée par Ruth Sahanaya en 1991. Vous savez, Hetigus Endang, elle est née à Jakarta le 6 août 1957. Elle commence sa carrière pour la première incursion dans le monde de la musique à l'âge de 14 ans. Tout au long de sa carrière dans le monde de la musique et avec les divers genres, Hetigus Endang a remporté avec le grand succès en remportant de nombreux prix au niveau national et international. Non seulement cela, elle avait été désignée comme meilleure chanteuse grâce à son « Si doucement » fois avec la chanson de Sayang au festival de Viña del Mar au Chili. Son talent apporte le nom de Hetigus Endang devenu être connu dans des pays étrangers, surtout en Asie. Bon, eh bien, chers auditeurs et auditeurs, c'était l'histoire de chanteuse Hetigus Endang dans le magazine de musique édition Langdi. Mais avant de vous quitter, allez encore écouter deux dernières chansons de Hetigus Endang intitulées Widuri. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était quelques chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.